France Inter.
Héritier du situationnisme et de l'anarchisme punk, le photographe et réalisateur Antoine d'Agata a sillonné les nuits et la sombreur de plusieurs continents, explorant le désir, la mort, le sexe, les états seconds, la violence, les marges, les bas-fonds et toute une humanité souffrante avec laquelle il a quasi fusionné afin d'être capable de la montrer. Artiste radical aimant le trouble autant sur les images que chez ceux qui les regardent, il va là où la plupart d'entre nous ne veulent pas regarder et donne à voir le chaos du monde et sa poésie funèbre. Documentant autant son inconscient que la brutalité extérieure et notamment politique, il définirait sa photographie par trois mots: violence, excès, résistance. Sur ses clichés et dans ses films, des drogués, des prostituées, des cadavres, de la chair pénétrée par des corps ou des virus, des paysages, des blessures de guerre. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, il a récemment publié une œuvre en trois volumes intitulée « Méthode », fruit d'une résidence au centre Georges Pompidou. Ce soir, plongé dans les profondeurs nocturnes et tentative d'épuisement des psychés et des carcasses. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Antoine d'Agata.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Je crois que c'est il y a quelques semaines, j'étais au Vietnam et je travaillais dans des orphelinats où les enfants vivent avec les conséquences d'infections à l'agent orange et donc sont handicapés et se passe de génération en génération cette et j'ai passé des heures dans ces centres et le rapport en fait avec ces jeunes ou moins jeunes gens qui souvent étaient soit aveugles, soit enfin, à qui manquaient des membres et des qui n'y étaient placés ni fonctionnaient de manière normale et le rapport était formidable. Le rapport, il y avait une beauté, une force, une dignité dans ces gamins qui m'a emporté.
Je crois que vous êtes très engagé au Cambodge notamment. Vous animez des ateliers.
Oui, enfin, là c'était au Vietnam, et oui, je repars fin janvier pour la 21e édition de ces workshops gratuits qu'on conduit depuis 22 ans maintenant et qu'on a accompagné par la création d'un centre pour les gamins là-bas, avec les gamins de la rue, enfin, beaucoup de choses.
Vous dites, Antoine d'Agata, que vous ne pouvez créer que dans un état de fragilité permanente. Êtes-vous un être fragile, selon vous ?
Je crois que j'ai appris à construire une force pour équilibrer justement cette fragilité originelle et que j'ai toujours du mal à fonctionner à tous les niveaux et que toute mon existence était une manière de tenter d'aller de dépasser et d'aller au-delà de cette fragilité. Mais dans le travail, oui, je continue de provoquer les conditions pour à la fois technique, esthétique, humaine, sociale, pour rester en position de vulnérabilité et pas de contrôle.
Vous dites que le seul critère valable est de mesurer le monde à l'échelle de ses propres peurs. Et vous avez photographié tant de choses qui sont dérangeantes, d'où la question, de quoi avez-vous peur ?
Je crois que la peur est une condition première pour que je décide ou je tente de photographier quelque chose. Donc à la fois le désir et la peur. Si un de ces deux éléments est absent, je trouve peu d'intérêt à confronter ces situations ou ces processus. Donc la photographie, oui, est une manière en fait d'aller au plus près de ce qui m'effraie le plus.
Qu'est-ce qui vous effraie le plus ?
La misère sociale, l'impuissance sociale, économique, politique, le manque de perspectives, le manque de possibilités qu'ont des êtres dans toutes nos sociétés. Et l'intensité et les protocoles extrêmes qu'ils inventent pour résister à cette violence qui leur est faite.
Il y a quelque chose de singulier chez vous, c'est que vous vous immiscez, vous participez pleinement à ce que vous photographiez ou filmez, et vous dites qu'il y a une impossibilité pour vous d'exister hors de la photographie. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne prenez pas de photos ?
Ben, je crois que depuis le début, depuis le début de mes expériences photographiques, qui étaient assez tardives, j'ai tenté de redéfinir la photographie, d'en faire un outil qui est basé non pas sur le regard, mais sur l'expérience propre, sur l'action, sur la réalité de notre interaction au monde. Et de fait, la photographie est devenue un médium existentiel pur. Toute ma vie passe par la photographie et ma photographie n'existe pas sans mon implication absolue dans les situations que je photographie. Donc c'est devenu en fait complètement entremêlé à mes expériences de vie, à mes relations, mes interactions avec les êtres que je photographie, et que ce soit... il n'y a plus de limite, en fait, entre l'intimité émotionnelle ou physique, entre le contexte économique et politique. Tout ça est totalement entremêlé, totalement inséparable.
Y a-t-il déjà une chose que vous n'avez pas osé photographier ?
Je crois qu'il y a des choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de photographier, qui sont... peut-être la déchéance physique, en fait, l'usure du corps, de l'esprit, c'est un processus qui est en cours. Et parfois, je tente de trouver une manière de rendre compte de cette perte de puissance, de cette perte de lucidité parfois. Mais le processus...
Est-ce que la perte de lucidité, ça, vous l'avez documenté dans les prises de drogue, par exemple ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, toutes les drogues que j'ai expérimentées et dont j'ai fait l'usage ne sont pas des drogues qui autorisent une fuite ou une... Ce sont des drogues, en fait, chimiques, contemporaines, très puissantes, qui vont au-delà de tout ce qu'on a pu connaître ou imaginer jusque-là, et qui, en fait, amènent ou provoquent des états de lucidité extrêmes. Je me souviens de chaque seconde, de chaque instant d'intensité mentale, physique, émotionnelle. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est ce gain de... Enfin, plus qu'un gain, c'est ces états extrêmes qui font qu'on entrevoit et on a la capacité physique et mentale d'aller au-delà de ce qui est imaginable pour le commun des mortels.
Dans votre film Atlas, par exemple, on voit des gens se piquer ou inhaler quelque chose, enfin tremper une cigarette dans un produit. Je ne sais pas quel est le produit.
En fait, tout le film, qui à l'époque s'appelait Atlas, la version actuelle s'appelle White Noise, et qui d'ici 2-3 ans existera dans sa forme finale. Le film fait 4 heures pour l'instant dans sa forme actuelle.
Moi, je l'ai vu sous le titre Atlas.
Oui, c'était en fait le film. J'ai commencé à filmer il y a 20 ans. Il faisait 5 minutes à l'époque, aujourd'hui il fait 4 heures.
Donc c'est plein de voix différentes de tous les pays.
Il y a effectivement 27 femmes qui parlent dans 14 langues différentes. J'ai enregistré toutes ces femmes dans leur langue d'origine sans comprendre le plus souvent ce qu'elles disaient pour traduire des années plus tard ces longs monologues. Et effectivement, ce sont 4 heures de parole ininterrompues durant le film. Et le produit dont vous parlez, enfin, la plupart des situations étaient filmées... dans des contextes liés à la méthamphétamine, qu'on peut appeler crystal meth ou ice, enfin, selon les
Et on est lucide sous méthamphétamine ?
Trop, au point de créer effectivement des ruptures, des états de paranoïa extrême ou de folie, simplement.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Antoine D'Agata, vous êtes né à Marseille de parents siciliens. Vous n'étiez pas du tout programmé pour devenir photographe selon vos propres mots. Et jusqu'à 14 ans, vous rêviez de devenir curé. Vous fréquentiez la paroisse Sainte-Anne. Vous parliez beaucoup avec le prêtre. Vous aimiez ça. De quoi parliez-vous ?
Je parlais surtout avec Sœur Jacqueline. En fait, j'étais amoureux d'une bonne sœur.
Ben, ça commence bien.
Ce qui peut-être a été le début de la fin. Non, effectivement, mon rapport le plus proche et le plus amical était avec cette sœur qui m'a appris à taper à la machine. Tous les samedis après-midi, je passais des heures avec elle. Et il y avait une vraie fascination. Au-delà de ça, je crois que ça n'a jamais été le côté spirituel de la religion qui m'intéressait. C'était plutôt le côté...
Les laisser pour compte.
Oui, la possibilité de sacrifier, en fait, de se sacrifier pour absorber cette douleur humaine. Et c'est à peu près ce que j'ai fait ces 40 dernières années en dehors du contexte religieux et à l'encontre du contexte religieux.
Croyez-vous en quelque chose ?
Je crois au temps qui nous est attribué et qui est très limité. Et je crois à cette inéluctabilité de rester ignorant de notre condition, du sort qui nous est fait, de la limite du champ d'action qui nous est possible.
Le spectacle ne chante pas les hommes et leurs armes, mais les marchandises et leurs passions. C'est dans cette lutte aveugle que chaque marchandise, en suivant sa passion, réalise en fait dans l'inconscience quelque chose de plus élevé, le devenir monde de la marchandise qui est aussi bien le devenir marchandise du monde. Ainsi, par une ruse de la raison marchande, le particulier de la marchandise s'use en combattant, tandis que la forme marchandise va vers sa réalisation absolue. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu'il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà, c'est un autre objet qui porte la justification du système et l'exigence d'être reconnu.
Antoine Dagata, il y a une première rupture dans votre existence qui a lieu quand vous avez 14 ans. Elle est déclenchée par vos lectures des existentialistes de Georges Bataille ou de Guy Debord qu'on entend là dans la Société du spectacle. Et je crois que c'est à ce moment-là que votre conscience politique émerge, et anarchiste notamment.
Je crois que dans l'ordre, je suis passé par la mouvance anarchiste, effectivement, pour ensuite passer au mouvement autonome. Et c'est un peu plus tard que l'influence situationniste s'est fait sentir.
Est-ce que c'était vers 17 ans quand vous avez... Je crois que vous avez été apprenti boucher dans des abattoirs à Marseille, et puis ensuite vous avez connu justement la nuit, la drogue, et traîné avec des groupes autonomes.
Ça a été des processus parallèles, en fait. Effectivement, à l'âge de 17 ans, j'ai quitté le domicile de mes parents, et pendant quelques mois, j'ai travaillé aux abattoirs Saint-Louis à Marseille, mais en même temps, effectivement... Entraînant, et ce monde de la nuit a pris très vite le dessus. Marseille, à l'époque, était une ville qui était infestée par l'héroïne, par beaucoup de choses, et ça a basculé très vite pour rentrer en fait dans le processus plus complexe.
Votre première expérience photographique a été faite sans appareil et représentait vos produits narcotiques, seringues, cachets, cuillères. Est-ce que la consommation de drogue qui a traversé toute votre vie était plutôt du côté de l'autodestruction ou de l'accroissement de la vie, de l'accroissement de la sensation ?
Je crois que j'ai toujours été à la recherche de l'intensité. À partir des lectures de Bataille, c'est ce qui me semblait la stratégie de vie la plus pertinente. Et cette recherche, elle passe effectivement par la consommation de produits divers, mais pas seulement, aussi par la pénétration de milieux qui me semblaient inaccessibles, qui étaient... Il y avait sûrement un certain type de romantisme dans cette recherche, mais très vite, je me suis appliqué à entrer dans ces cercles obscurs.
Qu'étaient les fossoyeurs du vieux monde ?
C'était le nom d'un tout petit groupe, effectivement, de jeunes...
Situationnistes.
Oui, situationnistes qui nous ont infiltrés. On était une bande de zonards, comme on disait à l'époque, et on a été, pas forcément manipulés, mais ils ont aidé certains d'entre nous à trouver les logiques qui nous a permis de pousser cette expérience plus loin, de quitter la France, de voyager, d'aller dans tous ces lieux où la politique était au cœur, en fait, de la vie. La vraie vie, en particulier en Amérique centrale, au départ, au Salvador, avec ce contexte de guerre civile qui était à l'époque la réalité violente, et au Nicaragua, pendant la révolution sandiniste.
Vous parlez justement de la vie. Vous avez fréquenté des prostituées, des toxicomanes. Alors, je précise que les prostituées avec lesquelles vous avez eu des histoires d'amour, ce n'étaient jamais des relations tarifées, c'était des vraies histoires d'amour. Et vous dites que vous trouviez auprès d'elles et auprès des toxicomanes la vie et la liberté. Vous n'avez jamais eu envie de vous détruire ?
Non, mon parcours n'a jamais répondu à un désir ou une tentation d'aller trop loin. Même si la destruction est un principe que j'ai toujours accepté, provoqué, recherché, l'autodestruction. Cette violence, pour moi, elle a toujours été synonyme d'intensité, pas de fuite ou de renoncement.
Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed, qui aborde les thèmes de la drogue et du sexe que vous traitez aussi, Antoine Dagata, sans pour autant penser qu'ils sont au centre de votre travail. Pour vous, c'est seulement un moyen d'entrer en communication avec des franges particulières de la société. Je le disais tout à l'heure, vous avez filmé des prostituées et vous dites « L'obscénité n'est pas dans la représentation crue de leur réalité, mais dans l'hypocrisie de notre société à leur égard ».
Oui, je crois que c'est un schéma classique. En tout cas, je parle pour moi, pas pour le reste de la société, mais j'ai toujours considéré ces zones extrêmes, ces bas-fonds, ces marges, comme le lieu privilégié de possibilité de vivre au-delà du possible, de vivre à la hauteur des mots, à la hauteur de la fiction, des fictions qui ont alimenté et inspiré tous mes choix de vie. Et donc, malgré bien sûr le fait que cette condition elle est toujours imposée à ceux que je photographie, ils sont dans une position en fait de tragique au sens classique du terme. Et cette grandeur, cette dignité, cette immensité, ces destins au-delà de la banalité de la vie formatée, c'est ce que je recherchais et c'est le privilège que j'ai eu de vivre à leur côté.
Vous parlez au passé, est-ce que vous le recherchez toujours ?
Non, je crois que j'ai commencé à photographier à l'âge de 30 ans. J'ai vraiment commencé à vivre de la photographie et à fonctionner à travers la photographie à l'âge de 37 ans. Donc ça va très vite. Je vis aujourd'hui avec cette fatigue. Je crois qu'il y a un déplacement qui se fait aussi. La politique a toujours été au centre et au cœur de tous mes choix. Et aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là que j'avance à tâtons et que je tente de développer une possibilité, une responsabilité personnelle face au contexte qu'on connaît tous.
Vous dites « N'est valide qu'un art nuisible, subversif, asocial, athéiste, érotique et immoral, antidote à l'infection spectaculaire, qui neutralise les esprits et distille la mort. » La question est la suivante, peut-on vous choquer ?
Il y a beaucoup de choses qui me choquent. Je crois que je parlais de privilèges de l'existence que j'ai menée, mais j'ai vu trop de choses, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait mal, qui m'ont choqué, qui m'ont... au-delà de ce que je pouvais pressentir ou imaginer.
Mais ce chaos du monde que vous montrez, vous l'avez cherché activement ?
Je l'ai cherché, mais parce qu'il existe, parce qu'il est partout. Enfin, c'est nous qui refusons de le voir, de l'adresser, et qui choisissons de l'ignorer. C'est cette violence, c'est cette douleur, ces systèmes d'exploitation, de colonisation, d'écrasement, ils sont... tout près de nous, ils sont à portée de regard. C'est le choix de chacun de lever les yeux ou pas sur ces réalités.
Vous dites lever les yeux, alors je pense évidemment à la blessure que vous avez eue à l'œil en 81 lors d'une manifestation, vous avez reçu une grenade lacrymogène d'un policier. Je crois que depuis vous avez un œil voilé.
C'était le 19 mars 1981. J'ai reçu trois grenades lacrymogènes le même jour, la troisième dans l'œil, et j'ai perdu cet œil qui aveugle plus.
J'aimerais connaître, si vous me permettez de vous poser la question, votre rapport au corps, puisque tout votre travail tourne autour du corps, vivant, mort, abîmé, beau, effrayant. Et le corps est aussi politique, puisque c'est aussi, pour vous, une question de solidarité, de communauté, de faire corps, littéralement, avec lui.
Je n'ai jamais voulu renoncer à une dimension possible à la fois d'existence ou de travail à travers la photographie. Et donc ces dimensions à la fois politiques, à la fois esthétiques, mais surtout et aussi existentielles, pour moi, passent à travers le corps. Donc c'est pas tant le corps en lui-même qui m'obsède, c'est la nécessité d'aller au-delà des mots, au-delà des idées, au-delà de la pensée même, et de faire de toute cette recherche un processus physique, physiologique, qui ne se contente pas de comprendre, d'analyser le monde, mais qui me force à prendre une position propre dans cette réalité. Et ça passe par le corps, ça passe par le sexe, ça passe par les effets narcotiques, mais tout ça sont des outils, en fait, des outils qui me permettent de penser et de vivre dans le même temps.
Quel est votre rapport à votre propre corps? Quel est votre rapport à la douleur physique, à la souffrance, à la maladie?
Je le traîne.
Vous traînez votre corps?
Je le traîne, je le supporte, je fais avec. Et encore une fois, il n'est pas question de m'épanouir ou de. Il est question d'aller au-delà de mes forces, d'utiliser à la fois la pensée, les convictions, l'idéologie et les nécessités physiques pour vivre au-delà de ce que je suis censé de vivre.
Toujours la guerre civile au Nicaragua, la bataille fait rage en ce moment même à Managua, la capitale. Alors, dernier témoignage au téléphone de Marc Crépin il y a une demi-heure à peine, celui d'un photographe français qui est sur place, Arnaud Borel de SIPA Press.
Le nombre d'informations que nous possédons, qu'après l'offensive de la Guardia, les forces du front sandiniste aient repris leur position. C'est-à-dire que personne n'a avancé et personne n'a reculé.
1979, Antoine D'Agata, vous vous y rendez en 86, toujours pendant la guerre civile, avec un photoreporter séropositif, qui prenait des photos de façon compulsive. Ça vous a énormément marqué, je vous laisse nous raconter, puisque je crois que ça a été un déclic aussi pour vous et vous mettre à la photographie.
Oui, c'est un voyage qu'on a fait à trois. Raphaël, qui était photographe, Raphaël Kirchetti, et Bruno Dantec, qui est écrivain aujourd'hui, et avec qui j'ai continué à voyager les années qui ont suivi.
À faire des livres.
Et effectivement, c'était mon initiation à la photographie, c'était de voir quelqu'un, Raphaël, photographier de manière constante, avec aucune autre possibilité ou arrière-pensée que celle de vivre l'instant. Et je crois que c'est ce qui est à la fois le fondement et qui l'entendement que j'ai de la photographie et que j'ai jamais perdu depuis.
France Inter. 20e heure, Eva Bester.
J'étais comme les gamins que je photographiais.
I was working from the inside. There was no way that you could bring someone from the outside in.
De l'intérieur.
There's no way to photograph hell unless you.
Quand on est en enfer, par exemple, il faut être en enfer pour pouvoir prendre des photos de l'enfer. Et c'est ce que je faisais. Je faisais des photos de l'intérieur.
And then one day, 25 years ago,
et puis un jour,
I saw Drugstore Cowboy.
25 ans, j'ai vu Drugstore Cowboy.
Gus's movie. And I said, shit, this guy's on my turf.
Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est ce gars-là, il travaille sur mon terrain à moi.
I've always wanted to make film.
Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma et si je veux me lancer, il faut que je me lance maintenant. Donc, j'ai complètement changé d'attitude.
Parce que
je savais qu'évidemment, il y avait un certain budget qui était nécessaire pour faire un film. Donc, j'ai changé d'image.
I quit all drugs, I quit
j'ai arrêté
all alcohol,
la drogue, j'ai arrêté de boire, j'ai tout arrêté. Je suis tombé amoureux, je me suis marié, j'ai eu deux enfants. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a donné de l'argent pour faire mon film.
C'est Larry Clark qu'on entend au micro de Laure Adler sur France Culture en 2015. Antoine D'Agata, à la fin des années 80, vous allez à New York, vous travaillez dans des restaurants le jour, dans des bars la nuit, et vous étudiez la photographie, notamment auprès de Larry Clark et de Nan Goldin. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui a été marquant chez eux pour vous ?
Bien sûr, ce sont des photographies qui m'ont marqué, qui m'ont formé. Avec Larry Clark, il n'y a pas eu vraiment de rencontre, c'est-à-dire que j'ai étudié avec lui, mais c'était moi sa photographie qui m'intéressait. Avec Nan, le rapport était beaucoup plus... Enfin, j'ai gardé à la fois une tendresse immense pour elle, mais aussi... Je suis redevable, en fait, photographiquement, de ce qu'elle m'a appris et apporté.
Elle vous a encouragé à retourner au Mexique ?
Oui, mais aussi, elle m'a surtout forcé à rechercher des états d'honnêteté, d'intensité, d'une certaine pureté, de ne pas me laisser contaminer par ces déviances photographiques qui viennent en permanence nous amener ailleurs et de garder le cap. Et ça, je lui dois, en fait, d'avoir toujours tenté de ne rien faire d'autre que ce qui est essentiel, à la fois à ma pensée et à mon action.
Mala noche, insomnio de mi amor. Mala noche, tan negra y tormentosa. Mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran.
Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que todo es por ti. En las horas de mi insomnio fatal, mi loca pasión no puedo calmar, hasta mi alma me abandona por ir del ser que me hace sufrir. Y si mi alma te llegara a encontrar y a traerte junto a mí, en mi corazón daría un altar nada más para ti.
Si te dice Mala noche, Lady Gourmet et le trio Los Panchos, qui lui est d'origine mexicaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Mala Noche, Antoine D'Agata ?
Je crois que quand j'ai eu beaucoup de mal à photographier quand j'ai étudié à New York, et pendant plusieurs mois, j'étais incapable, en fait, de me connecter ou de ressentir les milieux que je traversais. Et j'ai dû, au bout de quelques mois, partir au Mexique. Et là, j'ai renoué, en fait, avec l'existence qui avait été la mienne la dizaine d'années qui avait précédé. Et de suite, les images se sont faites toutes seules.
Comment faisiez-vous pour voyager autant sans moyens ?
Je crois que j'ai, dès le départ, créé ces allers-retours, en fait, permanents entre le... Je travaillais à l'époque à New York et je faisais des allers-retours sur la frontière entre le Texas et le Mexique. Et je n'ai jamais beaucoup travaillé.
Oh non, je ne vous crois pas.
Non, c'est vrai. On avait une économie qui était... on s'entraidait avec cette bande de Marseille. On avait un type d'entraide qui nous permettait, en fait, de survivre, de bouger, de fonctionner en groupe.
Dans votre film Atlas, qui s'est tourné dans de multiples pays comme l'Asie, l'Inde ou en Amérique du Sud, on entend donc des voix dans plein de langues différentes. Et il y a une voix russe qui dit « c'est insupportable de rester en tête-à-tête avec soi-même ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que c'est Lisa en Ukraine qui dit ça. J'ai déjà pas fait la même chose, je crois, dans un film documentaire il y a quelques années, où je disais « mon salut, c'est l'autre ». Et je crois qu'effectivement, au-delà des effets physiques, des substances diverses, Elisa était une grande junkie. Ce sont des ponts, des tentatives de sortir de cet enfer intime, inéluctable.
Notre idée, c'était de questionner un système donc, qui, à force d'utiliser l'être humain comme la ressource humaine, ne peut que déboucher sur, avec cette obsession de rationaliser l'économie, l'activité économique, ne peut que déboucher sur la production d'énormément d'exclus, et pas seulement donc, les migrants, mais aussi des ouvriers licenciés. Il y a un lien entre la traque des Roms et la situation qui est faite aux ouvriers de Fralib, par exemple, c'est cette fabrication de populations, surnuméraire de populations de trop.
On entend Bruno Le Dantec lors de la sortie de votre livre commun, Antoine d'Agata, Odysseia. Il est sur France 3 Marseille en 2013. Je crois que c'est un compagnon de route important pour vous, puisqu'il apparaît dans plusieurs de vos livres. Et il apparaît aussi dans ce dont j'aimerais que nous parlions maintenant, c'est-à-dire Méthode, qui est issue de votre résidence de 5 mois au Centre Pompidou entre septembre 2024 et février 2025 sur l'invitation de Laurent Lebon. Un travail sur vos archives, et ce qui est le plus frappant, c'est que vous étiez l'inverse de quelqu'un qui archive. Vous avez voulu vous alléger en archivant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
L'archive, pour moi, était simplement une manière de trouver la force et de me donner les moyens de continuer à photographier. Le livre Méthode, que vous mentionnez, en fait, est le point de départ d'un projet. En général, on fait un livre pour aboutir un processus. Là, c'est tenter de mettre mes idées au clair, d'estimer l'effort qui reste à faire pour affronter de manière personnelle, individuelle, des violences qui sont bien au-delà de ce que je peux confronter, et d'agir donc. Et donc oui, c'est passé par cette opportunité que Laurent Lebon m'a donnée de réunir de manière concrète, de construire une structure qui réunisse, qui intègre le peu d'archives que j'ai pu accumuler au fil des années. Et c'était une étape indispensable pour retrouver une légèreté, pour retrouver une capacité à voir, sentir et réagir.
Vous dites le peu d'archives, mais il y en a tout de même énormément. Et quand on se plonge dedans, on voit des photographies d'explosions, de pendus, de végétaux, la nuit, qui apparaissent en blanc sur fond noir, d'habitations, de corps meurtris, abîmés, assassinés, des fosses de cadavres, des maisons en tôle, des squelettes, des ossements. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire des photos de choses qu'on pourrait qualifier de candides ? Ou de mièvre ?
Non, je crois que je suis attaché à trouver une forme, à rendre tangible cette compréhension que j'ai du monde et qui est effectivement obscure, qui est sombre, qui est chargée. Et tout ce qui ne participe pas de cette dynamique, de cette perspective, me semble futile, inutile. Et effectivement, je retourne encore et toujours vers ce qui parfois semble irregardable ou incompréhensible.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. La nuit je mens, je prends des trains à travers.
Le standard de ce soir, c'est La nuit, je mens d'Alain Bashung. Et justement, je voudrais vous interroger sur la nuit, Antoine d'Agata, vous qui avez fait aussi l'ouvrage Insomnia avec Bruno Le Dantec. À quoi ressemblent vos nuits ?
Mes nuits sont mes moments de lucidité, où tout semble possible, tout semble facile, où les règles, s'effacent, et où les corps se rapprochent, tout semble, la nuit semble plus propice en fait, à ce que les choses surviennent, à ce que je puisse atteindre ces niveaux d'expérience, d'intensité auxquels je suis toujours attaché.
En parlant de nuit, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la double violence que vous documentez, c'est-à-dire celle diurne et celle nocturne, qui est plus intime ?
J'ai toujours, dès les premiers jours, comme photographe, travaillé sur cette dualité, cette dichotomie entre cette violence d'un côté économique, politique, que je m'évertue à documenter. J'estime que c'est ma responsabilité.
C'est celle du jour.
Oui, d'aller là où cette violence est infligée à des masses immenses de population. Et j'y vais comme un, à la fois un témoin critique, en observant de la manière la plus froide, la plus lucide possible, les processus qui me font violence. L'autre violence, elle est totalement antagoniste à la première, et c'est une violence qui m'a formé, dans laquelle j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai agi, et elle fait partie de moi, cette violence, et je fais partie d'elle. Et c'est une violence qui est narcotique, est souvent criminelle, et illégale, et hors des lois et des... Cette violence, je ne l'excuse pas, je ne la comprends pas, mais je la vis. Je la vis avec ceux qui la vivent, et je la conçois comme une forme de résistance, de réponse, d'antidote à la violence économique qui, aujourd'hui, plus que jamais, écrase.
Il y a un mot qui revient souvent dans vos interviews, c'est épuisement. Vous parlez d'épuisement, vous dites que vous êtes brûlé, fatigué, que la construction d'une archive est liée à l'épuisement. Vous avez proposé à Marseille une nuit épuisée, vous avez réuni plusieurs écrivains. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avez-vous été allégé par cette résidence à Pompidou?
J'ai effectivement retrouvé une certaine capacité à regarder, à vivre. J'avais besoin. Je crois que le poids, en fait, de l'œuvre, le poids de ces années de photographie devenait m'empêcher de... Il y a toujours cette préoccupation, en fait, du sens global. J'ai pas renoncé, bien sûr, à construire et affiner le sens ultime et de ces années de photographie. Mais je parlais tout à l'heure de vulnérabilité, mais c'est l'épuisement aussi qui est un état qui me permet en fait de perdre le contrôle, de penser moins, de contrôler moins, et de sentir et d'agir plus.
Merci beaucoup Antoine D'Agata.
Merci.
Je rappelle que votre triptyque Méthode a été imprimé par le studio Vortex, 3 petits volumes. Très joli à l'extérieur, et à l'intérieur, joli ne serait pas le mot, mais frappant, dérangeant, troublant, important. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Florian Dorimini.